Aucune règle a été donnée par Moïse, c'est précisément les rabbins qui nous le disent. Il y a dans la Gemara une... Tu veux essayer de trouver le texte en fond? Il y a une Gemara qui pose une question comme ça. À quoi servent les rabbins? Nous permettre ce qui est interdit, ils ne peuvent pas. Nous interdire ce qui est permis, ils ne peuvent pas. Alors, à quoi ils servent? La réponse est très simple. À nous dire ce qui est permis et ce qui est interdit. Pardon? Mais ce n'est pas ce ciseau-là dans lequel je me trouverai. Regardez, on va vous citer la référence, mais en substance, il dit ceci. Que les fils et les filles de l'étranger ne vivent pas, nous n'avons pas d'héritage, etc. Dans l'histoire d'Israël. Je paraphrase un peu, car vous aurez une place supérieure à celle des fils et des filles, dans la mesure où vous adoptez la loi d'Israël. Par conséquent, ce qu'il faut bien distinguer, c'est cette époque de la gestation de l'identité d'Israël et où apparaît cette règle claire. L'identité Israël passe par la mère. Et donc, c'est la règle de la halakha. J'ai ajouté une chose dont vous n'avez peut-être pas tout à fait entendu tout à l'heure. Et dans n'importe quelle société humaine, il y a des règles de définition d'identité. On peut y pénétrer à condition de régulariser ces règles. Tout simplement. Prenez un club de pêcheurs à la ligne, il a son propre règlement. Vous voulez faire partie du club des pêcheurs à la ligne, il faut entrer dans le règlement du club des pêcheurs à la ligne. On ne peut pas de l'extérieur nous dire, changez votre règle, parce que de l'extérieur, je veux être comme vous. Ce n'est pas possible. Okay? Alors, ceci dit, la règle, ceci dit. Bon, ce que nous avons vu comme première approche, c'est cet exemple de la différence entre Ishmael et Yitzhak, parce que la mère est différente, regardez bien le verset, « Asher Yalda Hagar Amitrit Le'Avra ». Voilà, jusque là, sur le premier point, j'espère qu'on va retrouver le point. Oui.
Pourquoi dans le cas où la mère est la même,
on
l'identité, apparemment, est encore plus... Parce que vous avez dit qu'il y a réconciliation entre Ishmael et Yitzhak,
en train de
se convertir. Pourquoi,
dans
le cas où la mère est la même,
l'identité
est encore plus radicalement différente?
Oui. Parce que je veux dire, la règle, je vais l'exprimer en français de façon un peu générale, mais j'espère que ça sera suffisamment précis, sinon on reprendra tous ces problèmes demain, dès qu'il nous reste un peu de temps, mais peut-être pas suffisamment. Parce que c'est l'approximation la plus grande qui fait apparaître l'éloignement le plus grand. C'est clair. Et Esav, Esaü, dans la dénomination de la halakha, est appelé Israël Moumar, c'est-à-dire Israël renégat. Esav lui-même est un Israël, mais renégat. Tant que Esav, lui, est vivant, il peut faire tshuva. Dans sa descendance, c'est déjà plus Israël. Donc les descendants de Esav ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à l'origine, à leur lignée. Et à l'échelle individuelle, ils peuvent régulariser. Et par conséquent, ils deviennent Israël authentique. C'est pourquoi la majorité des convertis de la Gomara viennent de Edom, de la civilisation d'Esav, et pas d'Ishmaël. Parce qu'Ishmaël peut avoir sa propre identité de tzaddik à sa manière. Il suffit que l'islam réussisse pour lui.
Mais Esav n'est pas d'accord.
Non, parce que Esav tzaddik, c'est un concept contradictoire. Esav tzaddik, ça veut dire Israël. Et vous comprenez bien que c'est le problème de l'Église. Hein? Ça y est, c'est clair. Oui. C'est pourquoi il y a une grande différence dans la perspective d'avenir. Il peut y avoir réconciliation entre Ishmaël et Yitzhak. Il n'y a pas de réconciliation entre Esaü et Jacob. Esaü disparaît en tant que tel.
Mais pourquoi dans le Coran, on a mis la même phrase à l'enterrement de... C'est ça qui m'a expliqué. Il y a le même verset.
Pas exactement le même.
Ah non, mais oui.
Alors je vais vous donner maintenant les références, mais vous n'avez pas les textes sous les yeux. Je vais vous lire très rapidement, à la fin de la paracha de Chaye Sara. Je vais vous donner les références rapidement. Si vous voulez, amener des livres de Bereshit demain, parce qu'on a besoin de plusieurs chapitres, et puis on reprendra ça un peu plus en détail demain, si vous voulez. Et voilà quel est le verset le plus important, c'est celui-là. Verset 9. Du chapitre 25. D'accord. Chapitre 25, verset 9. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בנר ולמערת המכפלה אל שדה אפרון בן סוהר החיתי אשר על פני ממרא וכו'. Dans le verset 8, je parviens. Dans le verset 8, on apprend que Abraham va mourir Beseva Tova en bonne vieillesse, Zaken de Savea, âgé et rassasié de jour, si vous voulez. Et le Midrash pose la question suivante. Comment ce verset 8 du chapitre 25 de la Genèse peut dire qu'Abraham est mort en bonne vieillesse, alors qu'il y avait cette querelle terrible entre Ishmaël et Yitzhak? Vous voyez l'étonnement. Verset 9. Et l'enterrèrent Yitzhak et Ishmaël, ses fils, à la caverne de Marpella, du champ de Ephron, et ça se trouve, comme vous le savez, à Hebron, okay, la caverne de Marpella. Alors le verset 9 nous dit ceci, que Yitzhak et Ishmaël ont enterré Abraham à Hebron. Ishmaël, entre-temps, était en Égypte. Et on apprend du Midrash qu'à l'annonce de la mort d'Abraham, Ishmaël est revenu en Eretz Israël, à la caverne de Marpella, et pour assister à l'enterrement d'Abraham. Et le texte dit, c'est à cela que vous faisiez allusion, le texte dit « Yitzhak ve Ishmael bana »« Isaac et Ishmael ses fils ». Alors Rashi cite un Midrash qui intervient à ce moment-là et qui nous explique « Voilà la bonne vieillesse d'Abraham ». Le verset a dit « Yitzhak et Ishmael ». Ishmael a reconnu qu'Yitzhak passe avant lui. L'ordre du verset c'est « Yitzhak d'abord, Ishmael ensuite ». Et ça veut dire tout simplement que Ishmaël reconnaît que c'est Yitzhak qui est chez lui à Hebron, puisqu'il vient de l'Égypte assister chez Yitzhak à l'enterrement d'Abraham. C'est clair. Voilà l'indice de cette réconciliation. C'est quand Ishmaël reconnaît qu'Yitzhak est chez lui à Hebron. Alors le cycle d'Abraham prend fait et la réconciliation se fait. Ça c'est pour Ishmaël et Yitzhak. Je veux simplement indiquer que tout semble être préparé pour cette scène-là, puisque la seule ville où il y a et Yitzhak et Ishmaël encore en contestation, c'est Hebron. Et par quel hasard on va se demander que le seul endroit où, depuis la guerre des six jours, on a construit une ville juive à côté d'une ville arabe, c'est précisément Hebron. Et c'est à Hebron même, vous avez lu les journaux toutes ces années, c'est à Hebron que se fait l'affrontement, qui est chez lui, chez Abraham. De quelle synagogue il s'agit? De la synagogue qui s'appelle la synagogue d'Abraham, à Hebron. Rappelez de tout ça, vous voyez ça dans les journaux. Okay. Finalement, ça a beaucoup avancé. Finalement, tout se passe comme si on a déjà entrevu la possibilité que ce soit les Juifs qui sont chez eux, dans la synagogue d'Abraham, à Hebron. Okay. Vous comprenez comment ça avance? Et alors, le jour, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais le jour où Ishmaël reconnaîtra qu'Yitzhak est chez lui à Hebron, alors on revient à notre midrash, okay. Ce rire de moquerie, raillerie, mépris d'Ishmaël vis-à-vis de Yitzhak aura cessé et la réconciliation se fera. Et c'est pourquoi, nous dit Rashi, au verset, cette fois 17, qui est le dernier verset où on parle d'Ishmaël, au verset 17 du chapitre 25, Ishmaël est appelé tzadik. Et je vous montrerai comment. Et le verset dit, Vel et Shene Chaye Ishmael, Mea Shana Vishoshim Shana Vishema Shanim, Vaiguvar, Vayamot, Vayasef Elama. Le verset dit, il expira, Vaiguvar, Vayamot, il mourut, Vayasef Elama, il rejoint ses ancêtres. Et le Midrash dit, chaque fois qu'il y a Gevira, on a dit, il expira, Vaiguvar en hébreu, il s'agit d'un tzadik. Effectivement, quelques versets plus haut, verset 8 du chapitre 25, on avait dit cela de Abraham. Et Rashi ne commente pas, il le commente à propos d'Ishmael. Ça veut dire que Ishmaël devient tzadik lorsqu'il se réconcilie avec Yitzhak. La réconciliation avec Dieu, ça c'est l'islam. Et il reste le conflit avec Israël. Et lorsque le conflit avec Israël est résolu, Ishmaël est tzadik, n'a pas besoin de devenir Israël pour être tzadik, et la réconciliation se fait. Alors que le deuxième verset concernant Esav est tout à fait autre. Et vous allez la voir à la fin de la paracha de Toldot. C'est le verset 5 du chapitre 28. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Vayelech Padan Aram, et Yitzhak a renvoyé Jacob, il est allé à Padan Aram, El Laban ben Betuel Arami, chez Laban, fils de Betuel l'Araméen, verset 5 du chapitre 28, et là il y a l'expression Achi Rivka, frère de Rebecca, et Yaakov et Esav, mère de Jacob et d'Ésaü. Rashi cite un midrash en nous disant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais que Rivka est la mère de Jacob et d'Ésaü, on le sait déjà. Donc je ne sais pas ce que ça va nous apprendre ici. Vous suivez? Or, comme il y a un autre verset auquel on devait faire allusion, qu'à l'enterrement de Yitzhak, il y avait Jacob et Ésaü qui ont enterré Isaac. Vous vous rappelez de cela? Alors on pourrait croire que la même réconciliation s'est faite entre Ésaü et Jacob, puisqu'Ésaü a fait passer Jacob devant lui à l'enterrement d'Isaac. Okay. Rachid intervient dans ce verset 6, celui-là, c'est-à-dire le verset 5 du chapitre 28, en nous disant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que tu pourrais croire que ça veut dire que Ésaü s'est réconcilié avec Jacob, puisque le texte note Jacob avant Ésaü. Comme nous savons d'autre part qu'il n'y a pas de réconciliation entre Ésaü et Jacob. Ça nous le savons en particulier par le prophète Ovadia, tout le chapitre du prophète Ovadia. Alors à ce moment-là, Rashi qui était en pays chrétien, ne pouvant pas dire la lecture hébraïque du verset, nous dit, vous vous rappelez ce que je disais hier, l'objet du commentaire de Rashi, nous dit pour les juifs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça, ce que ça veut dire est très clair. Lisez le verset avec moi, avec les Ta'amim. Rivka et Yaakov, et vous avez un Atna, un Tacha, le Yaakov. Ça veut dire, il faut lire comme ça en hébreu, Rivka, mère de Jacob, point virgule, et Ésaü. Ésaü est rejeté à la fin du verset. Ça veut dire que Rivka n'est plus.
C'est
pareil. Rivka et Yaakov, et Esav. Non, et Esav est en plus. Voilà, j'ai parlé très rapidement de tout ce problème.
Je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire.
Voilà. J'ai trouvé. Très bien. Qu'est-ce que c'est 56. Alors je vous lis votre texte. Chapitre 56 d'Isaïe. À partir du verset 6. Vous venez à Nechar, à Nilvim, à Lachem, et les fils de l'étranger qui s'adjoignent à Dieu, au Dieu d'Israël, les chartent pour le servir, l'Ahava et Shem Hashem, et pour aimer le nom de Hashem, l'Iyotlo, l'Aravadim, pour être ses serviteurs, Kol Shomer Shabbat Mechalelo, tout celui qui observe le Shabbat et ne le profane pas, ou Mahazitim le Jiti, et s'en tient à mon alliance, la loi de Moïse, Vahaviotim et Rakochi, je les ferai venir à mon montagne de sainteté, et si Martim les bêtes les filati, je les réjouirai dans la maison de ma prière, et etc. Ça répond au verset 4. Déjà au verset 3. Ve'al yomar ben anecha, et que le fils de l'étranger ne dise pas celui qui s'adjoint à Dieu. Anilve l'Hachem, des mots qui ne disent pas ceci. Avdil Yavdilen Yachem et Alamo. Dieu m'a séparé de son peuple, Dal Yomar Saris, Henani et Yavesh. Que l'eunuque ne dise pas, je suis une souche desséchée. Et c'est là que je voulais aussi en arriver. Ça veut dire que, imaginons quelqu'un de la lignée d'Abraham qui n'a pas d'enfant. Selon la halakha, s'il adopte un enfant, même étranger, et que cet enfant à l'échelle individuelle devienne son fils adoptif, alors il a à travers lui une descendance. Vous voyez donc juste cela là. Seulement il y a une régularisation d'identité. C'est le problème. Et vous allez me dire peut-être, vous avez fait allusion d'ailleurs, cette règle d'identité que ça passe par la mère et pas par le père, peut-être que les faits et la réalité contredisent, apparemment. Vous pouvez avoir des fils de mère juive qui ne sont pas vraiment juifs, et des filles de père juif qui le seraient. Ça, c'est l'apparence. Et je vais vous donner un exemple qui va vous étonner. Probablement un des pires ennemis du peuple juif et d'Israël, c'est un juif. Selon la loi juive, puisque sa mère est juive, il s'agit de Kadhafi, le dictateur de la Libye. Vous savez pas ça? Kadhafi est juif. Oui.
C'est vrai?
Et oui. C'est vrai. Et vous voyez avec quelle...
Donc moi, je vais qu'il est comme ça.
Avec quelle intensité d'amour inversé, il aime Israël.
Le contexte, soit comme ça,
sa mère est juive de Libye qui a épousé un arabe et Kadhafi est né. Il doit y avoir une allusion dans le verset qui est Kadhafi Be'api. Pour ceux qui entendent les mots. Mais tout ça, c'est des apparences. Je vais vous dire une chose énorme. Selon la halakha, Kadhafi est juif et pas Christ.
Qu'est-ce que c'est Mergoy?
Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de lui.
Parce qu'il aimerait Goy?
Non, je fais semblant. Mais voyez à peu près le problème. Alors, à l'échelle individuelle, la réalité nous donne des cas à régulariser. Ça se régularise.
Mais la règle collective est celle-là, c'est que on est juif par sa mère.
Mais est-ce qu'on connaît la descendance de Sarah?
Pardon?
Est-ce qu'on connaît la descendance de Sarah?
Sarah, oui. C'est
Yitzhak.
Et après, à partir de
Yitzhak,
il y a
quoi? Son
ascendance? Oui, c'est la famille d'Abraham. Sarah est hébreu, elle est demi-sœur d'Abraham. Mais...
C'est
des
demi-sœurs, on ne peut pas bien
dire. C'est un autre problème. Mais elle est hébreu. Oui, ce qui se passe entre Abraham et Sarah, Abraham et Agar, c'est que Sarah, c'est la matrice d'identité de la société hébraïque, j'en ai parlé tout à l'heure dans ces termes, Agar, c'est une autre matrice d'identité d'une autre société. Qu'à l'échelle individuelle, ça puisse se régulariser, c'est évident, mais il s'agit d'un projet d'identité dans l'engendrement pour l'avenir qui est radicalement différent, quelles que soient les ressemblances. Voilà. Bon, ceci c'était pour un peu pour éclairer à travers votre question la différence Ishmaël d'un côté, Yitzhak de l'autre. Vous voyez qu'il y a en Ishmaël un potentiel de fils d'Abraham qui peut être régularisé. Mais tant qu'il n'est pas régularisé, il est fils d'Abraham. Et donc son statut est très précis dans ce récit. Je reprends un peu pour récapituler cela. Le problème, c'est que Israël, à travers son histoire, a eu donc à faire face à deux rivalités. Il faut bien comprendre cela. Au niveau des rapports théologiques, il n'y a pas de problème majeur entre le judaïsme et l'islam. C'est au niveau des rapports de la conception de la morale dans l'histoire qu'il y a rupture absolue. Alors que par rapport au christianisme, c'est radicalement l'inverse. Il y a une très grande analogie dans la conception de la morale, dans sa stratégie de réalisation, il y a à discuter. Mais la conscience chrétienne désigne la morale juive dans sa désignation de la morale. Alors qu'au niveau théologique, il y a rupture absolue. Alors vous voyez ce décalage. Et qui est, comment dire, il n'y a pas de pont, on ne peut pas jeter de pont sur ce décalage. Ceux qui assisteront ce soir à la conférence du Père Dupuis, je ne sais pas à l'avance qu'il va dire, enfin, je les subodore un peu, mais assisteront à ça, un dialogue impossible au niveau théologique, alors qu'il y a convergence des visées au niveau du vocabulaire qui parle de la morale, même si l'application de cette visée morale est très différente en fin de compte, parce que derrière il y a une théologie différente. Ce que je veux dire, c'est ceci. Je crois que c'est artificiel d'opposer la morale des évangiles et la morale du Talmud. C'est la même. Lorsque les évangiles parlent de la morale, ils parlent de la morale du Talmud. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que la morale du Talmud, c'est cette morale de la Bible vécue à la manière hébraïque, alors que la morale des évangiles, c'est cette morale du Talmud, mais perçue à la manière gréco-romaine. Mais la visée est analogue. Est-ce que c'est clair? Alors que l'intuition théologique est radicalement différente, il n'y a pas de pont à jeter, même pas au niveau du vocabulaire. Tandis que lorsqu'un musulman et un juif, au niveau de la théologie, se parlent, ils savent qu'ils parlent de choses analogues. Avec une grande différence du point de vue de la perspective morale. Vous voyez comment nous sommes coincés dans une problématique, finalement, très simple à comprendre dans son schéma, mais très très complexe à vivre au niveau de la réalité du détail des choses. Parce que c'est clair. En climat musulman, on a toujours reconnu la grandeur théologique d'Israël, mais c'était corollaire d'un mépris politique. Vous n'avez pas de place sur Terre. Chez vous, c'est le ciel. Mais sur Terre, c'est le ghetto de Mela. Alors qu'en monde chrétien, c'est très différent. On vous donne la citoyenneté politique, mais il y a un refus théologique. Voilà la différence. Et donc, l'issue de cette double lutte, eh bien, elle nous est racontée dans ces récits. En fin de compte, Ishmaël reconnaîtra qu'Israël est chez lui, il n'y a pas d'autre solution. Et puis, en fin de compte, Essa disparaît à sa manière. Qu'est-ce qu'il deviendra? Diaspora d'Israël, peu importe. Mais Essa, comme tel, disparaît. Je ne sais pas ce qui va arriver aux dynasties des papes, mais il semble bien que les prévisions de Nostradamus sont en train de se réaliser. Les abonnés. Bien, voilà grosso modo l'état de l'analyse. Alors on se revoit demain pour la suite.
Ah, je vous pose une question, oui. Ah, si je peux. Ben. Ah, mais Ishmaël est né où?
Ishmaël?
Oui.
Dafka, il est né à Beersheba.
Donc, c'est-à-dire qu'Abraham, il est parti en Israël, un tout Abraham, Abraham sans le hey, après là qu'il est hey, de l'exil, il est parti en. Non, comment je peux dire ça?
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est pas le fait que. Je pensais que Ishmael est donné qu'il soit Abraham, et que Abraham est parti. Non, c'est pas ça, je voudrais
absolument pas.